5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi 19 février. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Près d'une vingtaine de ministres vont participer au rassemblement contre l'antisémitisme prévu à Paris et dans plusieurs villes de France ce soir. Emmanuel Macron lui s'exprimera demain lors du dîner annuel du CRIF. Les salariés de Blanquefort vont encore devoir patienter pour connaître les détails de l'offre de reprise. Une nouvelle assemblée générale a lieu ce matin. Vous pourrez vivre en direct ce soir sur Europe 1 les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions Lyon face au FC Barcelone.
Europe 1.
Après les multiples actes antisémites de ces dernières semaines, la classe politique se mobilise donc fortement. Ce soir, plusieurs rassemblements prévus à Paris à travers tout le pays. La moitié du gouvernement va y participer. Édouard Philippe sera là. Emmanuel Macron, lui, s'exprimera demain lors du dîner annuel du CRIF. On a évidemment en tête l'agression verbale à l'encontre d'Alain Finkielkraut samedi en marge d'une manifestation de Gilets jaunes. Alors justement, beaucoup condamnent les actes antisémites. Pour Thierry-Paul Valette, Gilets jaunes parisiens, il faut évidemment aller manifester ce soir et peu importe si l'appel a été lancé par des partis politiques.
Il faut répondre présent ce soir à l'appel des politiques et peu importe que ce soit l'appel des politiques, on s'en fout. On a tous été Charlie à un moment donné, on a tous été unis et on doit retrouver nos fondamentaux du tous vivre ensemble, peu importe nos religions, peu importe notre couleur de peau. Cet esprit, il doit encore demeurer, il doit rester. Et c'est pour ça que les figures, on les appelle comme on veut, médiatiques du mouvement, ont cette responsabilité d'être ferme pour dénoncer tous ces actes de violence qui appellent à la barbarie.
A manifesté ce soir un avis qui n'est pas forcément partagé par José Manrubia, par exemple, un gilet jaune d'Arles qui condamne les actes mais qui ne sera pas ce soir dans la rue.
Il faut condamner toute dérive, il faut condamner tout acte violent, il faut condamner tout acte raciste ou antisémite. Et par contre, je trouve que c'est peut-être mieux qu'une manifestation soit demandée par la société civile plutôt que par des partis politiques, que les partis politiques suivent derrière, oui, mais pas eux qui soient les organisateurs, parce que ça peut laisser entendre qu'il peut y avoir une certaine récupération politique et jamais sur le dos du racisme ou de l'antisémitisme.
Un propos recueilli par Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Notez aussi que deux adolescents de 15 et 16 ans ont été interpellés à Sarcelles après avoir tiré la carabine à plomb devant une synagogue vendredi dernier. Une personne a été légèrement blessée. Le président de la communauté juive de la ville a dénoncé une agression d'abord motivée par la bêtise.
Puis le président du conseil départemental de l'Hérault, Kléber Mesquida, ainsi que Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ont reçu une lettre anonyme.
Oui, une lettre à vomir, bourrée d'insultes antisémites. Justin Morin.
C'est une lettre envoyée de Béziers, écrite à la main, gros caractères, adressée aux deux élus, autour du texte 8 croix gammées. En introduction, voilà plusieurs mois que vous nous pourrissez la vie tous les deux, la pute et le juif. Nous en avons marre de voir vos tronches de cons tous les jours. La suite est adressée directement, je cite, « aux sales juifs de Kléber Mesquida ». L'auteur de la lettre demande au président de l'Hérault de démissionner. L'élu poursuit la lecture.
Et en suivant, Carole et Kléber, vous avez 3 mois pour prendre cette sage décision. Sinon, boum boum, à bon entendeur, salut. Et c'est signé les compagnons d'Adolf Hitler, avec beaucoup de croix gammées, 8 croix gammées. J'ai eu l'occasion de recevoir beaucoup de lettres anonymes, mais jamais de lettres avec des menaces de mort, avec une telle violence, surtout dans ce climat national où il y a une recrudescence d'actes et de propos antisémites. Et je me sens ébranlé, mais néanmoins, je ne céderai pas.
Kléber Mesquida et Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, ont porté plainte. Ils appellent tous les citoyens à venir se rassembler à 18h30 ce soir devant la préfecture de l'Hérault à Montpellier pour dénoncer l'antisémitisme.
Justin Morin, dans l'actualité également, une dizaine de membres du gouvernement vont participer aujourd'hui à une déclinaison du grand débat national sur une plateforme de streaming de jeux vidéo Twitch. Objectif, toucher un public plus jeune. 11 heures de direct sur ce site internet. Édouard Philippe ou encore Jean-Michel Blanquer vont y participer.
Les 850 salariés de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde, toujours en attente.
Ils espèrent une reprise par le groupe belge Punch. Hier, les syndicats sont allés à Bercy. Avec Bruno Le Maire, ils ont convenu de se donner une semaine de plus pour tenter d'améliorer l'offre du repreneur potentiel. Mais les employés ont bien du mal à croire encore à un projet pour leur site alors qu'une cellule de reclassement est déjà présente. Une nouvelle assemblée est prévue ce matin. Écoutez Jean-Marc Chavant de Force Ouvrière.
Ça commence à être long, ça commence à être fatigant. Franchement, ça devient compliqué. On n'est pas dans le monde des bisounours et si c'était si solide que ça, si bien que ça, je pense que ça se serait déjà fait. Mais le point le plus bloquant dans cette histoire, c'est Ford, hein, qui depuis le départ fait tout ce qu'il faut pour fermer l'usine parce que c'est ça qu'il veut faire. Ça va être compliqué à l'AG, ça va être compliqué d'expliquer que ben, on a gagné une semaine et les gens comprendront pas pourquoi. Et si, la question qu'ils vont nous poser, mais pourquoi vous le faites ? Ben, parce que c'est mieux de garder son emploi que de le perdre, voilà. Moi, je pense qu'il y aura même plus que des yeux qui vont se lever au ciel. Il y aura du mécontentement, je pense, et des échanges, oui. Ça sera compliqué, mais on le fera.
Jean-Marc Chavant avec François Geffrier, un homme soupçonné d'être un complice du convoyeur de fonds qui avait dérobé le chargement de son fourgon blindé le 11 février. S'est rendu et a été placé en garde à vue hier. Il s'agit du conjoint de la femme de 29 ans qui avait été arrêté mardi à Amiens avec le convoyeur de fonds. Une partie du butin a été récupérée. Il manque encore plus d'1,5 million d'euros.
Et puis Céline, nous ne sommes qu'en février, mais il est déjà temps de penser à son job d'été.
Et oui, dans les Pays de la Loire, déjà plus de 800 offres d'emploi, animation de centres de vacances, serveurs, serveuses, c'est le moment pour se placer. Les premiers candidats passent déjà des essais, comme a pu le constater à Pornichet Pierre-Baptiste Vanzini.
À l'entrée du restaurant, c'est une jolie photo de l'équipe de l'été dernier qui accueille les clients chez Nina à la plage. Camille Giclot, la responsable, gère 70 personnes pendant les beaux jours et pour elle, le recrutement a déjà commencé.
Là, je cherche encore pour la saison une vingtaine de personnes sur des postes de bar, chef de rang, limonadier, plagiste, voilà, et encore un petit peu en cuisine, mais en cuisine ça va.
Les débutants sont acceptés à condition d'avoir envie et d'avoir l'esprit d'équipe. Après, la formation est assurée et elle peut commencer tout de suite.
Bah là, c'est un bon exercice pendant les vacances de février. On a le soleil qui est avec nous. Donc, c'est vrai qu'on est sur des services un peu comme en été. Donc, c'est vrai que là, au moins, ils sont tout de suite mis dans le bain. Ça leur permet de voir si ça peut leur convenir aussi.
Et c'est cette expérience du métier que recherche justement Mathilde en première année de BTS.
Moi qui veux faire justement travailler dans l'hôtel-restauration à la base, ça me permet de voir si je suis au niveau et de voir vraiment si ça me plaît et si c'est... là-dedans que je vais faire ma vie, quoi.
Et s'y prendre tôt pour trouver un job d'été, c'est aussi la garantie de pouvoir travailler les pieds dans le sable à quelques mètres de l'océan. Pornichet, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1.
Vous allez rechercher un job d'été, vous?
Mais pourquoi pas, Céline, vous savez. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Plus qu'une journaliste, une star de l'entertainment à l'américaine qui sait chanter, danser et même, comme elle nous le prouvait vendredi en duo avec Nikos Aliagas, slammer. Vous avez aimé Grand Corps Malade? Découvrez vite Petit Corps en Forme.
Bébé, qui bébé, qui bébé.
Moi je dis Kallmann, Kallmann, Céline Kallmann tous les jours.
Un bon moment de radio, comme on les aime. Bravo Petit Corps
c'est
en Forme.
C'est pas moi qui chantais avant.
Si, si.
Non, c'est pas moi.
C'est pas vous? Ah, c'est ce qu'on m'avait mis sur les notes. Alors quelqu'un s'est tué.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre,
je crois que c'était
c'est
moi, en
historique.
Fait.
C'était
mais
vous
l'avez fait aussi.
Ah, mais non,
on a le même prénom.
C'est
non,
pour
on a
ça.
Le même prénom.
Mais c'est ce problème de prénom. Moi, je suggère que l'une des deux prenne un autre prénom. Par exemple, vous, ça pourrait être Corinne. Comme ça, au moins, ça serait plus simple. On vous distinguerait plus facilement quand j'écoute les sons. À suivre,
pour nos enfants.
C'est historique. Oui, petite confusion peut-être.
Moi, il m'appelle maman. Oui, moi aussi, mais moi.
Les amis, ressaisissons-nous. Le fact-checking par l'histoire, ça vous intéresse? Ce matin, à l'occasion de la Journée internationale de la baleine, et c'était pas une blague, Fabrice Dalméda nous entraîne en haute mer pour nous parler d'un animal devenu symbolique de la prise de conscience écologique ou pas des hommes.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Et la douceur marque une pause
aujourd'hui. Une petite pause ounette.
Une légère pause.
Puisque ça baisse un petit peu cet après-midi. Même si on reste au-dessus des normales de saison, hein, 11 à 16 degrés du nord au sud. Elles vont repartir à la hausse, hein, ces températures, avec le retour du soleil dès demain. En attendant, le ciel est nuageux aujourd'hui. Surtout ce matin entre le Poitou-Charente et l'Alsace avec de faibles pluies. Ce sera bien ensoleillé sur un quart sud-est et sur les Pyrénées, ça toute la journée. Les éclaircies vont quand même revenir un petit peu partout cet après-midi.
Merci Céline. Eva Rock, vous nous parlez de Lune aujourd'hui.
Oui, exactement, alors qu'elle sera à son périgée ce soir. On vous a demandé si ça avait une influence, la Lune, sur votre humeur notamment, et bien sûr Twitter avec le hashtag Europe 1. Ilyes nous dit, il m'arrive souvent des malheurs quand c'est la pleine Lune.
Oh non.
Mais ouais, mais il nous a pas précisé lesquels. Gaston, il nous dit, oui, moi j'ai des convulsions, les boils qui poussent partout et les yeux qui deviennent rouges.
Ouais,
ah, oui,
d'accord.
Et même David Abiker, qui est en train de préparer sa revue de presse, nous a répondu, lui il dit, ça a une influence sur ma pilosité. Voilà, je pensais que j'allais pas le dire, mais évidemment que je le dis. Merci, vous continuez. Continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Non, pas de réponse personnelle.
Ma pilosité va très bien. Merci beaucoup, Mathieu.
En fonction de la Lune, je sais, c'est intéressant, ça peut intéresser nos auditeurs. Merci, Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Quand on le voit pénétrer en studio chaque matin, si svelte et à la fois si musculeux, c'est immédiatement l'image de perfection masculine du disco ball de Miron qui vient à l'esprit. Un corps qui en tout cas fait la joie de toutes celles qui ont la chance un jour de croiser sa route. Son quotidien c'est...
Des louanges, des louanges, des louanges, méritées de la part de ses partenaires.
Voici Jérôme Lacroix, le disco ball mou pour le journal des sports.
toujours.
Il envoie toujours le petit mot.
Une petite pique à la fin. Je n'arrive pas à être gentil. C'est pas Noé, je n'arrive pas à être gentil. À la une,
je trouve.
Messi, c'est possible.
Et oui, Messi, c'est possible. Le titre en une ce matin.
Le jeu de mots est excellent. Eva, arrêtez de critiquer des jeux de mots.
Il n'est pas de moi. Preuve à l'appui, je vous montre la une du Progrès avec pleine page. Donc, notamment Lionel Messi, le footballeur star de Barcelone. Quintuple ballon d'or. Il sera présent ce soir sur la pelouse du Parc OL, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Lyon-Barcelone. 7 ans que les fans lyonnais attendent le retour de leurs oeils à ce niveau de la grande Coupe d'Europe. Et disons-le, ils auraient bien fait sans Messi. Mmh. Certes, pas dans la meilleure forme de sa vie. Il revient de blessure. Mais pour les supporters, il reste bien le danger numéro 1.
Meilleur joueur du monde, 5 ballons d'or, il n'y a rien à dire. Quoi. De toute façon, c'est un des meilleurs joueurs de la planète qui vient à Lyon, donc forcément qu'on va profiter.
C'est un peu particulier, ça fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde depuis presque 10 ans, donc on s'en lasse pas. Quoi.
On doit quand même le respecter, parce que quand on voit ce qu'il a déjà fait avec le nombre de Ligue des Champions qu'il a gagné, etc., on ne peut pas le siffler.
Ben voilà, classe des propos recueillis par Christophe Lamar. Et côté lyonnais, une absence majeure, un Nabil Fekir, le champion du monde, il est suspendu. En 6 confrontations, les Lyonnais n'ont jamais battu Barcelone, 4 défaites et 2 nuls.
Alors, est-ce que ça peut être différent cette année, Jérôme ?
Les Catalans ne sont pas dans leur meilleure forme, c'est vrai.
Voilà.
Une seule victoire en 4 matchs en février, mais enfin, le Barça est premier de son championnat. Messi, meilleur buteur, 22 matchs,
ah oui.
22 buts en Liga. Bon, voilà qui fait dire à l'entraîneur Bruno Genesio, pas d'euphorie.
Plus on avance vers le match, et plus j'ai l'impression qu'on est favori pour la qualification. Donc il faut rester mesuré. Je pense qu'on doit y croire parce qu'on a les moyens de le faire, mais il faut aussi beaucoup d'humilité. Et je pense que Barcelone va élever son niveau par rapport au dernier match qu'on a pu voir. Et donc, il va falloir être très, très solide.
Lyon-Barcelone, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, dans un Parc OL plein à craquer. Et sur Europe 1, soirée spéciale, rendez-vous dès 20h. On parlera également ce soir de Liverpool-Bayern Munich, l'autre très belle affiche du soir, coup d'envoi 21h.
Le foot à l'étranger, Jérôme, avec le rebond de Manchester United.
Et oui, après sa défaite européenne face au PSG, les coéquipiers de Paul Pogba ont battu hier Chelsea à Londres 2-0 en 8e de finale de la Coupe d'Angleterre. Pogba, auteur d'un but et d'une passe décisive. Le rugby, avec l'annonce attendue ce matin de la composition du 15 de France pour l'Écosse. Quels joueurs débuteront le 3e rendez-vous destination samedi au Stade de France? Les Français ont essuyé 2 défaites aux 2 premiers matchs.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
L'incroyable mésaventure d'une équipe de foot italienne. Elle s'appelle Pro Piacenza, 3e division, club de la ville de Plaisance, dans le nord du pays. Elle vient d'être exclue du championnat par la Ligue après un match au scénario incroyablement rocambolesque. Une défaite 20-0, parce que Plaisance, en proie à de grosses difficultés financières, avait pu aligner seulement 7 joueurs sur le terrain. Et c'était des gamins, des jeunes, 18 ans. Alors, il y en avait un 8e, mais il avait oublié ses papiers. Alors, le temps d'aller les chercher, il a pu rentrer qu'au bout d'une heure de jeu. Le kiné a même dû entrer en jeu à un moment parce qu'un joueur souffrait de crampes. Une farce pour la Ligue, selon la Ligue, qui a donc exclu l'équipe.
Oh, c'est triste pour cette petite équipe. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, suivi, comme le veut la tradition, par la rubrique histoire de ce dandy mystérieux. Cet homme si discret sur sa vie privée et ses préférences qu'on ne sait pas au fond, en dehors de l'histoire, ce qu'il aime vraiment.
Les bandits, les bagnards, les hommes de sac et de corps.
Oui, d'accord, on a une idée, ok. Mais voici Fabrice Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Ce 19 février, on célèbre la journée mondiale de la baleine. À cette occasion, Fabrice, vous souhaitiez aborder l'histoire de cet animal. En quoi est-ce un fait historique?
C'est assez historique. On utilisait beaucoup la baleine avant. On s'en servait déjà dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, par exemple, les abbayes comme Cerisy-la-Salle réclamaient le paiement de droits de gras et les nageoires sur la baleine, tellement ces morceaux étaient utiles. L'animal était si intégré dans notre vie quotidienne que les Normands se servaient de ses vertèbres pour poser les fondations de leur demeure. Dès le XVIIIe siècle, d'autres en récupéraient les petits ossements longilignes pour en faire des structures d'ombrelles ou de parapluies ou pour renforcer les corsets. Tous utilisaient son huile pour s'éclairer.
Et cet usage a duré longtemps ?
Encore au XIXe siècle, la baleine était une chance. En 1885, par exemple, un de ces mammifères marins s'échoue sur la plage de Luxe-sur-Mer. Aussitôt, il déclenche une intense activité. On vient se faire prendre en photo devant, on le découpe, des cartes postales sont vendues pour immortaliser l'événement. L'animal est identifié par un professeur venu spécialement de Caen comme un rorqual mâle. En fait, déjà à cette époque, il était devenu rare de voir une baleine dans ces parages. Luxe-sur-Mer a su s'en servir pour redorer son blason face aux grandes stations balnéaires proches de Deauville et Honfleur. Depuis, l'existence de ces géants des mers est menacée.
Et justement, la France les protège ?
Oui. Dès 1946, la France a adhéré à la Convention internationale pour la protection des baleines. Leur pêche a été interdite à des fins commerciales en 1982, interdit renforcé en 1986. Et pourtant, le Japon, sous prétexte de pêche scientifique, continue de pourchasser ces animaux en voie de disparition. En réalité, il prétend maintenir une tradition culinaire et une nostalgie pour un temps que nous, Français, regardons avec curiosité, mais aucunement avec avidité. Alors, ce 19 février, nous aurons tous une pensée émue pour nos cousines les baleines.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font à 6h20. Alors que France 2 organise ce soir un grand concours d'éloquence, nous accueillerons un avocat spécialiste de l'art oratoire qui sera ce soir dans le jury de cette émission de France 2. Je lui soumettrai quelques cas intéressants de ma connaissance.
Ça devient en fait un lieu de contestation pour l'opposition qui s'en donne à cœur joie sur cette crise de l'oignon avec tous les jeux de mots possibles et inimaginaux.
Tous les mots possibles et inimaginaux ?
Oui, pourquoi ?
Imaginable peut-être.
Imaginable ?
Si jamais des profs de français nous écoutent.
Ah bah oui, c'est vrai, inimaginable, c'est mieux. Ouais. Oui, mais l'avocat, il va prendre
la rencontre au sommet entre un expert de l'art oratoire et Varrock, c'est dans un instant sur Europe.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Édouard Philippe sera présent ce soir à Paris au rassemblement contre l'antisémitisme à l'appel de 14 partis politiques, édition spéciale de 18h à 20h avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Emmanuel Macron, lui, ne participera pas à l'appel, mais il prononcera un discours demain lors du dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. L'avenir du film Grâce à Dieu de François Ozon désormais entre les mains de la justice lyonnaise après une autre assignation en référé. Hier, le tribunal administratif de Paris a autorisé sa sortie. Le prêtre Prénat, poursuivi pour agression sexuelle, avait déposé un recours pour faire repousser sa sortie au nom de la présomption d'innocence. Il a été débouté. Enfin, ce soir, à partir de 20h, soirée spéciale Olympique Lyonnais FC Barcelone, 8e de finale allée de la Ligue des Champions, à vivre en direct, évidemment, sur Europe 1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 19 février et l'actualité c'est aussi aujourd'hui cette soirée que consacre France 2 à l'art oratoire. À 21h, Laurent Ruquier présentera un grand concours d'éloquence. Les candidats âgés de 18 à 78 ans feront état de leur talent pour la langue et les mots devant un jury. Bonjour Bertrand Perrier.
Bonjour.
Vous êtes avocat, enseignant spécialisé dans l'art oratoire. Vous serez membre de ce jury. Le grand public vous a découvert dans le documentaire « À voix haute » diffusé sur France 2. Alors, dans un monde quand même de plus en plus dominé par l'image, par les tweets en 280 caractères, le langage SMS, l'art oratoire, est-ce que c'est pas un truc qui sent un peu la naphtaline ?
Mais pas du tout, au contraire.
Il va me défoncer direct.
Non, mais évidemment, c'est parce qu'on parle par tweet, par SMS, par Instagram, par photo, qu'on a d'autant plus besoin de se parler. Parce que la vérité, c'est ça, c'est le langage, c'est le dialogue. Et sinon, si on s'envoie des mails, même des mails collectifs, c'est complètement sec et ce ne sont que des monologues successifs. Et c'est du dialogue qu'on a besoin. Donc de la parole.
Et savoir se montrer éloquent, ça reste, durant un entretien d'embauche, pour faire entendre son point de vue en réunion, quelque chose de toujours aussi primordial.
Non, mais peut-être pas éloquent. Éloquent, c'est à part surcroît, mais au moins prendre la parole en public de façon claire et simple, pour demander une augmentation, pour effectivement s'exprimer dans...
Expliquez-nous comment on fait.
Non, mais je sais que vous n'êtes pas concerné, mais indépendamment de ça, pour prendre la parole dans une réunion, pour faire valoir son point de vue, c'est quand même très important, la prise de parole en public.
Mais justement, pour beaucoup de gens, c'est un peu inné. On dit, ah lui, il parle bien, un tel parle moins bien. Mais l'éloquence, ça s'apprend, c'est votre métier.
Il y a une part de don, il y a des gens qui ont des prédispositions, comme pour le piano ou le football.
Mais ça peut se travailler.
Mais ça peut se travailler. Et moi-même, je suis un ancien timide, je le revendique et j'ai fait ce chemin-là.
Vous n'avez pas toujours été éloquent.
Bah, à supposer que je le sois, en tout cas je ne l'ai pas toujours été et j'ai été même vraiment maladivement timide, donc j'ai fait ce chemin de réconciliation avec la parole et si je l'ai fait, tout le monde peut le faire.
Alors justement, les lycéens passeront bientôt une épreuve de grand oral en 2021. Si vous deviez leur donner 3 conseils fondamentaux pour réussir cette épreuve ?
Le premier conseil évidemment c'est d'avoir bien travaillé son sujet avant. Parler, c'est d'abord avoir quelque chose à dire. Donc d'abord, avoir bien travaillé. Deuxième conseil, avoir une idée très claire de leur plan. Ça, c'est très important de savoir à l'avance quelle est la structure de leur discours. Et puis, souvent, sur les questions de mise en forme, ne pas parler trop vite et ne pas parler trop fort.
Ah, trop fort aussi, c'est pas
une
bonne chose.
Oui, varier la voix, c'est très important. Vous le savez, vous êtes des hommes et des femmes de radio, et l'intensité de la voix et le débit de la voix, c'est aussi ce qui fait la chair de la parole.
Est-ce qu'il y a des choses à éviter absolument, certains mots, des tics de langage, des tournures ?
Oui, on a tous des tics de langage, c'est évident. Alors moi, je lutte aussi contre du coup, qui est terrible.
Ah, du coup, oui.
Il est tapi dans l'ombre en permanence, il est là, il vous guette, et à un moment, il va sortir, alors qu'il veut rien dire.
Il sort, et c'est trop tard.
Et là, vous la voyez, voilà. Vous le voyez, et vous dites c'est trop tard, mais il y en a plein. Il y a En Mode, il y a Genre, il y a toute une série d'ennemis.
Oui, Eva Rock.
Qui sont les meilleurs orateurs d'après vous? C'est les politiques? C'est les avocats comme vous? C'est les enseignants?
Alors, les avocats, évidemment, sont souvent, ils ont fait profession de donner leur parole aux autres. Donc, a priori, c'est qu'ils aiment s'exprimer, même si beaucoup d'avocats ne sont pas des avocats plaidants. Les politiques, oui, ils sont souvent assez bons parce qu'ils ont l'habitude de la réunion publique, de la démocratie, qui suppose une expression publique, même si souvent, en réalité, ils ne font que véhiculer des éléments de langage plus qu'une parole. Et puis, les comédiens, bien sûr, qui ont fait profession de parler en public. Oui, ce sont des professions, évidemment, très marquées par l'oralité.
Est-ce qu'il faut commencer tôt pour devenir un bon orateur, ou en tout cas, des fois, être à l'aise à l'oral? Vous dites qu'il faudrait commencer les joutes verbales à l'école primaire.
Oui, parce que je crois que c'est à cet âge-là qu'on n'a aucun rapport avec son corps et avec le regard des autres. Or, la parole, c'est d'abord une affaire de confiance en soi et d'image de soi. Quand on est adolescent, c'est pire que tout. Vraiment, on a un rapport avec son corps qui est compliqué, le regard des autres devient difficile à supporter, et je crois précisément, et les anglo-saxons le font d'ailleurs, que c'est dès le primaire qu'il faut faire en sorte que la parole devienne quotidienne, banal et déchargé de toute pression.
Pour aussi réussir à construire des phrases complexes et intéressantes, est-ce qu'il ne faut pas, même les enfants tout petits, en maternelle, est-ce qu'il ne faut pas leur lire plutôt des histoires? Quand on lit des histoires à des tout petits enfants en bas âge, on a tendance à lire un peu n'importe quoi, Peppa Pig, etc. Est-ce qu'il ne faut pas leur lire plutôt les fables de La Fontaine? Ça risque d'infuser dans leur esprit et leur donner un beau langage plutôt que des choses écrites plus simplement, entre guillemets.
Ouais, enfin, il faut quand même qu'ils le comprennent, donc c'est pas la peine de
oui,
leur dire Kant.
Je
comprends, Mathieu, qu'on vous a lu Kant dès 6 ans.
Oui, oui,
voit
oui,
le résultat.
Excusez-moi. Oui,
non, non, mais
oui,
c'est
oui,
remarquable,
oui.
C'est un succès remarquable.
Mais Schopenhauer, bon.
Oui, 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 oui.
Monde comme volonté ou comme
tentation,
je pense que c'est
derrière,
accessible.
C'est autre chose, c'est remboursé. Non, je crois qu'effectivement, il faut lire aux enfants des grands classiques. C'est pas, je crois pas tant que ça à la littérature spécialisée.
Mais alors, justement, Bertrand Perrier, est-ce qu'on est tous égaux dans cet exercice, ou est-ce que la parole demeure encore un marqueur social fort?
Ah bah c'est un marqueur social absolument terrible et quasiment infaillible, en tout cas dans le regard de la société aujourd'hui. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Alors ça peut être très trompeur, mais c'est comme ça. C'est pour ça que maîtriser les codes qui existent de la prise de parole en public, c'est essentiel pour l'insertion économique, sociale, citoyenne. C'est pour ça que j'enseigne cette prise de parole, pour que les gens n'aient pas des blocages et ne soient pas mis dans des cases parce qu'ils ne parleraient pas très bien.
Vous dites « parler, c'est convertir ». En toutes circonstances, même dans le rapport amoureux, par exemple, ça peut servir de savoir bien parler.
Bah, la parole, c'est le ferment de l'amour. Sinon, on le fait et c'est banal. Mais c'est le dire qui fait de nous des hommes. Sinon, on est des gnous. Les gnous font l'amour, les hommes parlent l'amour.
Ah bah, dites plus clairement à nos amis jeunes qui nous écoutent, qui seraient encore dubitatifs quant à l'intérêt concret de leur oratoire, être un bon orateur, c'est la garantie de pécho plus. Il faut dire les choses.
Oui, alors là, effectivement, c'est un peu le choc des mondes, parce que on parle de parade amoureuse magnifique et pécho plus devient quand même décevant.
J'étais sûr que cette formulation vous plairait
voilà,
particulièrement.
On dit pécho davantage.
Pécho davantage. Ah oui, effectivement. Et une dernière question, est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop bien parler? C'est-à-dire, on associe souvent celui qui parle particulièrement bien au beau parleur.
Non, alors,
à celui qui, au détriment du fond.
Je suis très sensible à ça, et c'est pour ça que, plutôt que l'éloquence, j'aime dire prise de parole en public. Parce que dans l'éloquence, il y a quelque chose d'un peu esthétique, d'un peu même artificiel, de juste joli ou de sophiste, alors que dans la prise de parole en public, je pense que c'est plus simple, plus sincère et plus utile dans la société contemporaine. Donc la parole, c'est la vie, l'éloquence, c'est un petit peu plus que la vie.
Merci beaucoup Bertrand Perrier d'avoir été avec nous ce matin. Je renvoie à votre livre « La parole est un sport de combat » publié chez Jean-Claude Lattès. Et on vous retrouve donc ce soir sur France 2 à partir de 21h pour le Grand Oral.
À ce soir.
Europe 1. Il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et une petite perturbation traverse la France, mais rien de grave.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, les amis, on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Les températures baissent un peu aujourd'hui.
Oui, on perd quelques degrés, mais on reste encore au-dessus des normales de saison. Et surtout, elles vont repartir à la hausse dès demain avec le retour d'un soleil bien présent. En attendant aujourd'hui, la moyenne ira cet après-midi de 11 à 16 degrés. Ce matin, c'est encore un petit peu frais, 0 à 9 degrés en moyenne. Côté ciel, on a une légère perturbation qui traverse la France. On la retrouve surtout du Poitou-Charente jusqu'en Alsace-Lorraine. On la retrouvera également cet après-midi, ce matin avec quelques gouttes. Cet après-midi, retour du soleil quasiment partout. Là où il va briller généreusement aujourd'hui, c'est dans le sud-est et sur les Pyrénées.
Merci Céline. À suivre. Vous entendez la clameur de la foule qui n'est pas sans rappeler la furia du public marseillais lorsque Mario Balotelli sort du couloir des vestiaires afin d'aller éclabousser de son talent insolent la pelouse d'un stade Vélodrome surchauffé. Dans une minute, le journal du Balotelli de l'info, David Dougan.
Europe 1. Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 5-7 dynamique et rieur, pointu sur l'info, mais qui sait aussi prendre le temps parfois de s'en amuser. Un 5-7 enfin ouvert sur le monde. Or, qui dit ouverture sur le monde, dit bilinguisme français-anglais. Et qui dit bilinguisme français-anglais, dit Céline Dacosta et Eva Rock. Vous avez aimé Lost in Translation? Découvrez Eva et Céline qui découvrent une appli baptisée Human.
C'est quoi Human? Ça s'écrit comment ça?
Comme un humain.
U-M-A-N.
Ouais. Bravo mes championnes. À suivre.
Escrocs.
Ils sont vraiment ouverts sur le monde. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous livrent leur vision de l'actu en prenant notamment des nouvelles de nos voisins allemands dont l'économie serait en panne.
Ah, on va arrêter de se la culer douce. Il va y avoir de la mutation sur les fronts de l'Est. Peut-être pire.
Les trois fantastiques arrivent.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Ça suffit, c'est le mot d'ordre, il est simple. La France se mobilise ce soir contre l'antisémitisme. Des rassemblements sont prévus à 19h dans tout le pays. Et dans ce contexte, les premières escarmouches de la campagne des européennes, le parti présidentiel a une cible, une seule, le Rassemblement National, et les marcheurs cognent dur. Et enfin, nous allons vous présenter une star à la fin de ce journal. Elle s'appelle Imminence, elle est originaire du Nord, elle est en train de se faire toute belle. C'est une vache de la race bleue du Nord. Elle sera l'égérie du Salon de l'agriculture qui ouvre ses portes samedi prochain.
Europe 1.
Une vingtaine de partis politiques, de nombreuses personnalités, ils appellent tous à aller manifester ce soir contre l'antisémitisme dans la plupart des villes de région et à Paris, place de la République. Plus de la moitié du gouvernement sera présent, le Premier ministre Édouard Philippe en tête, mais pas le Président de la République, Jean-Rémy Baudeau.
Nous ne sommes plus dans la même France que celle de l'affaire de Carpentras. Dans les couloirs de l'Élysée, ce proche conseiller du président balaye les injonctions de la gauche pour que le chef de l'État se joigne au cortège de ce soir, comme l'avait fait en son temps François Mitterrand. Pour le président, il faut plus qu'une présence à une manifestation, précise-t-il, expliquant qu'Emmanuel Macron est en train de peaufiner le discours qu'il prononcera demain soir devant le CRIF. Devant les institutions juives de France, le président parlera ainsi du climat actuel, fait savoir son entourage. Une apparition jugée moins partisane, plus institutionnelle, assumée par l'Élysée. Le chef de l'État qui laisse ainsi son Premier ministre et son gouvernement en première ligne, il ne s'est jamais publiquement rendu dans une marche contre l'antisémitisme depuis son élection. Ses proches rappellent néanmoins qu'il a directement appelé Alain Finkielkraut après son agression samedi et qu'il s'était personnellement déplacé pour assister à l'enterrement de Mireille Knoll, cet octogénaire rescapé de la Shoah, poignardé il y a près d'un an à son domicile parisien.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1, l'ancien président de la République François Hollande sera présent ce soir ainsi que son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, le président des Républicains Laurent Wauquiez, celui de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan, mais aussi Laurent Berger pour la CFDT et Philippe Martinez pour la CGT. Mais on ne peut malgré tout pas parler d'union sacrée de la classe politique. Le PS, à l'initiative de l'événement, n'ayant pas invité Marine Le Pen, elle a décidé d'organiser avec le Rassemblement National son propre hommage et ne viendra donc pas place de la République. Et puis, il y a le fameux « oui mais » de l'extrême-gauche. Plusieurs responsables de la France insoumise ont condamné l'agression antisémite d'Alain Finkielkraut, mais ont immédiatement ajouté un « mais ». Le député insoumis Éric Coquerel explique que c'est par crainte d'une instrumentalisation. On l'écoute.
Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que ça serve à des fins, à des instrumentalisations. Condamner les propos de quelques personnes dans une manifestation de gilets jaunes vis-à-vis de M. Finkielkraut, il faut le faire de manière claire, nette. Mais pour autant, tous ceux qui, à partir de là, condamnent l'ensemble du mouvement des gilets jaunes se livrent, je crois, à une manipulation et à une instrumentalisation.
Éric Coquerel, député France Insoumise au micro de Virginie Riva. J'ajoute que nous avons appris hier que deux adolescents ont été arrêtés à Sarcelles dans le Val d'Oise. Vendredi soir, ils ont tiré à la carabine à plomb devant la synagogue en blessant légèrement un homme au mollet. Le parquet de Pontoise a retenu la circonstance aggravante d'antisémitisme. Et c'est dans ce contexte que commence la campagne des élections européennes. C'est
C'est le parti présidentiel qui déclenche la première escarmouche. Elle est contre l'antisémitisme, mais elle a plein de néo-nazis dans son entourage. Déclaration de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn parle de Marine Le Pen et elle n'est pas la seule à cogner fort depuis le début de la semaine. C'est une stratégie assumée, polariser le débat entre La République En Marche d'un côté et le Rassemblement National de l'autre. Adrien Beck.
Oui, le ton monte, ce conseiller ministériel le reconnaît. Entre la sortie d'Agnès Buzyn et celle du patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, sur l'entourage néo-nazi de Marine Le Pen. Officiellement, ce n'est pas une stratégie, assure-t-on dans le parti présidentiel. Et pourtant, comme au PS autrefois, une cellule anti-RN a été créée la semaine dernière au sein du groupe, pilotée par deux députés, notamment Françoise Dumas et Lu Dugard. Objectif, parler aux électeurs RN.
Je crois qu'il ne faut pas avoir des jugements de valeur, il faut comprendre, ce ne sont pas que des idéologues, ce sont des personnes qui ont des craintes, qu'ils expriment de cette manière-là. Et donc, il va falloir leur répondre, peut-être avoir des réponses spécifiques de la part de l'État, plus adaptés pour essayer de les rassurer et répondre à leurs préoccupations.
Car la majorité est sous pression, Marine Le Pen est celle qui a le mieux tiré parti des Gilets jaunes, s'alarme un poids lourd du groupe, qui demande d'aller combattre le RN sur le terrain rationnel, dénoncer leurs manquements, mais surtout éviter les petites phrases. Dire RN égale fasciste, prévient un cadre du parti, ça n'empêchera pas les gens de voter pour eux.
Adrien Beck du service politique d'Europe. Le Parlement a définitivement adopté cette nuit la réforme de la justice. Parmi les mesures phares figure l'instauration d'une nouvelle échelle des peines, la création d'un parquet antiterroriste et une fusion administrative du tribunal d'instance et de grande instance. Il est très attendu, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla sera dévoilé demain. C'est la conclusion de 7 mois de travaux sur les dysfonctionnements qui empoisonnent la présidence d'Emmanuel Macron.
À suivre dans ce journal, et si au lieu d'aller au guichet pour acheter un billet de train, le guichet venait à vous? C'est une innovation de la SNCF, des camions guichets qui se garent au plus près des clients. À tout de suite.
Il est 6h36. Il est 6h38, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Doucan. Une innovation de la SNCF pour faciliter la vente de billets.
Oui, ce sont des camions guichets en test dans 5 régions. Avec ce dispositif, plus besoin d'aller en gare ou en agence. C'est le vendeur qui vient à vous. Reportage dans le Maine-et-Loire, François Coulon.
Pas de gare à Saint-Pierre-Montlimard, la plus proche est à 15 km. Alors la SNCF a inventé le guichet mobile, une camionnette pilotée par Maëwen et garée hier devant la mairie.
Les gens n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer, donc c'est nous qui nous déplaçons. Et on a beaucoup de personnes qui n'ont pas internet ou qui simplement ne savent pas du tout l'utiliser, donc ils viennent acheter directement leurs billets avec nous. Pas mal de personnes âgées. Ils aiment beaucoup le contact humain, ils en ont besoin.
Première cliente, Nathalie, pas très à l'aise avec internet.
J'ai ma fille qui va partir faire ses études sur Angers. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller?
Une carte Mezzo. C'est vraiment une carte TER, ouais, qui est mise en place pour les jeunes au niveau de la région. Un trajet à 5,40 €.
Ah, c'est intéressant. Je vous remercie, madame. Au revoir. Moi, je préfère voir les gens. Franchement, c'est quand même plus agréable. Puis on peut poser des questions en direct. C'est surtout ça l'intérêt. Avoir du conseil, c'est ce qui est primordial. Avec internet, aujourd'hui, on est face à une machine et puis voilà quoi.
Cette gare roulante fait également chaque semaine le tour des petits marchés du secteur. Objectif pour la SNCF, 20% de fréquentation supplémentaire des TER d'ici à 2025. Saint-Pierre-Montlimard, François Coulon, Europe.
David, vous nous avez vendu une star dans vos titres. On veut la voir maintenant, on veut la voir tout de suite.
Eh bien ça tombe bien, elle s'appelle Imminence.
Oh
eh oui,
la vache.
Ah, c'est ça la vanne que vous me promettiez pendant la pub. Ah oui,
effectivement. Mais c'est pas une vanne, on est au courant,
on
c'est la vache.
Maintenant tout de suite, elle s'appelle Imminence.
Oui,
c'est imminent.
Elle est là.
Non mais vraiment, Eva, n'y mettez pas du vôtre. Bon alors, Imminence, c'est une vache de la race bleue du Nord qui, comme son nom l'indique, est originaire du Nord de la France. Elle fait partie d'un élevage bio et elle sera, à partir de samedi, l'égérie 2019 du Salon de l'Agriculture. Impressionnée par sa beauté, Lionel Gougelot l'a rencontrée.
Avant de monter à Paris, Imminence profite tranquillement du grand soleil qui inonde le bocage de l'Avesnois. Mais selon son éleveur, Gilles Druet, elle a bien senti ces derniers temps qu'elle était l'objet de toutes les attentions.
Bah, dès qu'on crie son nom, quoi, on voit tout de suite, elle se retourne et elle essaye de regarder de où on l'a appelée. Et elle sent qu'il y a un intérêt beaucoup plus important pour elle que ses autres congénères. Quoi.
Alors bien sûr, en ce moment, cette belle bleue du Nord de 5 ans est bichonnée, toilettée. Il faut que l'égérie du salon soit aussi belle que sur les affiches officielles.
Elle a été tondue pour dire d'avoir un poil court et propre. Elle a été soignée un petit peu plus que les autres pour qu'elle ait un état corporel qui soit bon. On a bien surveillé ses pattes, ses onglons pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis.
Imminence fait la fierté de toute la famille qui l'accompagnera pendant 10 jours sur le salon, moment unique pour Isabelle et ses trois enfants.
Ça va rester dans nos mémoires, ça c'est sûr, mais pas que pour nous, je pense pour la famille et puis tous les gens du coin. L'Égérie, c'est quand même l'endroit incontournable du salon. Donc
Elle va voir le président de la République en tête à tête.
En tête à tête, oui, et puis nous aussi. Ça va être un grand moment pour tout le monde.
Après le salon de l'agriculture, Imminence, la vache laitière retrouvera son bocage. Gilles compte aussi sur elle pour lui donner de jolis veaux, aussi racés que leur mère. À Saint-Aubin, dans la Vénois, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et le salon de l'agriculture commence samedi prochain à Porte de Versailles, à Paris.
Merci, c'était le journal de David Doucan. David, dont je prépare actuellement l'anniversaire. Et croyez-moi, vu les exigences du bonhomme, le Kanye West du News, c'est pas une mince affaire.
Avec des stripteaseuses, des danseuses, des pièces montées, des bouteilles de champ qui explosent comme ça.
Oui, parce que je vais lancer une belle pitchy, moi. Hein. Bon, allez, on fait le point sur le temps avec vous, Céline.
Il faut être à la hauteur, Mathieu.
Ah, mais j'essaye d'être à la hauteur avec vous, c'est pas facile.
Avec un petit peu moins de soleil ce matin.
Il va en avoir.
Dû au passage d'une perturbation faiblement pluvieuse qu'on retrouve surtout entre le Poitou-Charentes et l'Alsace, la Lorraine. Elle va rester encore un petit peu, elle va faire encore un petit peu du surplace cet après-midi, mais la pluie va s'évacuer. C'est les nuages qui vont rester, mais les éclaircies vont aussi revenir un petit peu partout. Et puis, dès demain, le soleil sera de retour. Et les températures seront à nouveau en hausse, puisqu'elles baissent un petit peu aujourd'hui. Hein. 11 à 16 degrés, ça sera la moyenne cet après-midi du nord au sud. Elles vont repartir à la hausse, je vous le disais, dès demain et jusqu'à la fin de la semaine au moins. On pourrait même battre des records de douceur.
Formidable. Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, qui vous amuse, mais qui sait aussi quand l'actu l'exige, dénoncer, porter la plume là où ça fait mal, comme disait Beaumarchais, n'est-ce pas Céline ?
Mais les gens qui mettent pas leur clignotant, ça me rend dingue.
Oui, alors heureusement, pour ce qui est de porter la plume là où ça fait mal, on a plutôt les trois fantastiques. Politique, économie, médias, nos éditorialistes vous livrent chaque matin leur vision, certes parfois tranchée, mais toujours argumentée. Ce matin, on parlera notamment de l'économie allemande, qui ne va pas fort.
Il est 6h43. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Mobilisation massive de la classe politique contre l'antisémitisme, des rassemblements ce soir partout en France, à Paris, place de la République, le Premier ministre, plus de la moitié du gouvernement et les représentants d'une vingtaine de partis politiques manifesteront à partir de 19h. Le Parlement a définitivement adopté cette nuit la réforme de la justice. Parmi les mesures phares, l'instauration d'une nouvelle échelle des peines, la création d'un parquet antiterroriste et une fusion administrative du tribunal d'instance et de grande instance. Enfin, du football, 8e de finale aller de la Ligue des Champions ce soir, l'Olympique Lyonnais reçoit le Barça. Soirée spéciale sur Europe 1, rendez-vous dès 20h pour suivre la rencontre en direct et en intégralité.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont là, leurs compétences impressionnent même avant qu'ils aient ouvert la bouche. Leur collègue David Doucan lui-même est en admiration devant leur complémentarité digne du Real de Madrid des années 2000.
C'est bien vendu, c'est bien écrit, bref, une équipe hors du commun.
Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. Trois professionnels qui savent l'importance du timing en radio. Sauf Axel, alias le ruineur de quiz, qui peine à comprendre qu'en radio, le principe du quiz est de laisser à l'auditeur le temps de chercher la réponse et donc d'éviter de répondre avant même que la question ne soit posée.
Je vous conseille plutôt le film diffusé sur W9, on va voir si...
L'âge de glace.
Bon bah tant pis.
Pardon.
Les quiz tournent court avec vous Axel, ça n'a plus aucun intérêt. On commence donc par la politique, pour vous punir avec Mickaël Darmon.
Oh, c'est charmant.
Aujourd'hui, plusieurs marches contre l'antisémitisme se déroulent à travers tout le pays. Mickaël, ces manifestations posent à nouveau la question du vivre ensemble dans notre société en pleine tension.
Et une information, hein, vous savez, dans les centaines de milliers de contributions, 1 million d'ailleurs pratiquement, qui émergent du grand débat, eh bien une très faible part est consacrée aux questions de citoyenneté. C'est ce qui est remarqué donc au gouvernement, où l'on perçoit à travers ce débat national, au fond, des revendications très individualisées, selon un ministre qui suit cela de près. Dans ce contexte de tension, de questionnement sur ce qui fonde une société, eh bien, il y a d'abord le consentement à l'impôt, c'est le point de départ donc, de la contestation des Gilets jaunes, et puis il y a également les valeurs communes. Or, dans les marathons présidentiels, eh bien, la question n'est pas au cœur des propos. Il faut dire que le sujet est d'autant plus sensible qu'Emmanuel Macron n'est toujours pas prêt à délivrer donc, un discours sur les questions de laïcité. On verra d'ailleurs ce qu'il dira demain au dîner du CRIF. Et pourquoi d'ailleurs ce retard et ce silence ? Eh bien, tout est lié, on le sait, à la question de la réorganisation de l'islam de France. Sur ce sujet, on avance à tout petit pas. Il y a eu un remplacement à la tête de l'Institut de la Fondation de l'Islam, donc, dont Jean-Pierre Chevènement a cédé la place à un islamologue, Galeb Benchek. C'était un premier signe. Le ministère de l'Intérieur va reprendre le pilotage de la réforme. On verra ça donc au printemps. Mais pour l'instant, tout avance vraiment et tout est bloqué.
Mais est-ce que le regain d'agression antisémite n'oblige pas les pouvoirs publics à affronter le problème ?
Alors la solution est effectivement ne pas être uniquement dans la répression, tout comme les appels à manifester contre l'antisémitisme ne le font pas reculer. On s'en serait aperçu depuis le temps. Les militants antisémites et extrémistes ont réussi à infiltrer un mouvement qu'on ne peut pas réduire uniquement à cela, mais qui plonge quand même les Gilets jaunes et leurs sympathisants dans une forme d'embarras face à cette haine qui, il faut le dire aussi, ne concerne pas que les Juifs de France. Des représentants du judaïsme français considèrent qu'il faut s'inquiéter ces temps-ci pour nos valeurs de tolérance en général. C'est pourquoi les marches d'aujourd'hui devraient en fait dépasser le simple rejet de l'antisémitisme pour appeler à manifester pour la tolérance et les valeurs de la démocratie, parce qu'on a l'impression qu'on vit des temps où c'est l'intolérance pour tous. Des homosexuels, des femmes, des lieux de religion sont pris pour cible et personne n'attendait vraiment le président de la République sur place, mais tout le monde attend sur son discours, sur les valeurs communes, comme l'a dit d'ailleurs Brigitte Macron en visitant un théâtre à Bar-le-Duc vendredi. Eh bien, il est temps de se parler à nouveau, dit-elle, et surtout, il est temps de dépasser le temps du constat et du débat.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cet éclairage. Axel de Tarlé, nous passons à l'économie en Allemagne, où l'économie allemande subirait, selon vous, une panne. Le pays a frôlé même la récession.
Eh bien oui, croissance au quatrième trimestre en Allemagne, 0%. Croissance au troisième trimestre en Allemagne, moins 0,2%. Alors que nous, vous voyez, on est dans le vert, on est toujours à plus 0,3%
mais
de croissance.
On nous parle toujours du modèle allemand.
Alors justement,
que se passe-t-il
pour le bon élève de la classe européenne ? Eh bien, quel est le point fort de l'Allemagne, qui représente la moitié de son PIB, de son économie ? Ce sont les
exportations.
Exactement. Or, le marché international, en ce moment, va très mal. Vous avez d'un côté Donald Trump qui veut taxer à tout va. D'ailleurs, Angela Merkel, ce week-end à Munich, a dit que c'était effrayant l'idée de voir Donald Trump taxer les voitures allemandes. Vous avez la Chine qui est en train de ralentir. C'est que les ventes de voitures en Chine en janvier ont baissé de 17%. Allemagne, gros vendeur de voitures. Et puis, troisième chose, vous avez l'Angleterre qui est dans la nasse avec son Brexit. Donc, vous voyez, les marchés internationaux se ferment. Donc, c'est la tuile pour une Allemagne qui exporte la moitié de ce qu'elle produit chez nous. L'export, ça n'est que le quart de ce qu'on produit. Donc, vous voyez, c'est l'avantage de ne pas être très bon à l'export.
On est moins sensible.
C'est qu'on est moins sensible au soubresaut du marché international. Et puis, il y a une deuxième chose. Au-delà de cette conjoncture défavorable, il y a une deuxième chose pour les Allemands qui est inquiétante. C'est la nature des exportations allemandes. Les Allemands, l'industrie allemande, elle est très forte en mécanique. C'est quoi les exportations allemandes ? Ce sont des voitures, ce sont des machines-outils, c'est de la mécanique. Or, l'avenir, le 21e siècle, ne sera pas mécanique, il sera numérique. Il sera digital, on le voit bien.
En voiture. Il faudra bien se déplacer quand même.
Ben oui, mais aujourd'hui, la clé de la voiture, ça n'est plus le moteur diesel. C'est la voiture connectée. C'est la voiture bon. C'est là qu'est la valeur.
Et pourquoi ils seraient pas bons là-dessus, les Allemands, sur la voiture connectée ?
Eh ben, c'est pas leur. Pour l'instant, c'est pas leur truc.
C'est vrai.
Le sommet international du numérique, il est à Las Vegas, vous voyez. Mm-hmm. Il n'est pas à Francfort. À Francfort, c'est le salon de l'automobile, c'est le salon de la mécanique. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais ce n'est pas leur point fort aujourd'hui. Et donc, vous voyez, d'un côté, la conjoncture est mauvaise. De l'autre, ils ont une mauvaise spécialité. Et si le premier de la classe avait un positionnement non adapté à ce nouveau monde. Écoutez, en tous les cas, l'avenir est moins flamboyant et ça inquiète les Allemands. Qui sait ? C'était ma petite blague de fin. Les Allemands finiront peut-être par mettre leur gilet jaune. Alors moi qui ne parle pas allemand, j'ai regardé sur Google Translate leur gelbe Westen.
Attention. Admirable.
Voilà,
ça, c'était une.
Mais non, il
n'y
a pas de
vanne,
c'est juste une traduction.
Oui, mais dans la bouche d'Axel, ça fait une vanne.
Ah bon, d'accord.
Eva Rock,
ça n'a fait rire personne d'ailleurs. Hein, les Allemands.
Mais vous savez, Axel, moi je riais énormément intérieurement. C'est les plus beaux fous rires sont intérieurs. Eva Rock, ce soir à la télé.
Nous en parlions avec votre invité Mathieu à 6h20, l'avocat Bertrand Perrier, l'importance de l'art oratoire. Après l'émission Le Grand Oral, qui sera diffusé sur France 2 à 21h, je vous conseille un documentaire intitulé Je dis donc je suis. Pendant un an, la réalisatrice Marie Bonhomé a suivi une classe de seconde du lycée d'Aulnay en Seine-Saint-Denis, une classe et leur professeur de français Mathilde Lévesque, une enseignante qui s'efforce au quotidien d'apprendre aux lycéens à penser, à argumenter, à avoir confiance. Alors certes, il y a un concours d'éloquence en fin d'année, mais c'est pas l'objet du film. C'est la relation élève-enseignant qui est au cœur de la réflexion. Écoutez ce qu'en dit une de ces jeunes filles.
En cours de français, on peut échanger, on peut dire nos idées, dire qu'on n'est pas d'accord. La prof, elle nous écoute, après ça dépend des jours. Parce que parfois, elle est butée sur son idée. Mais après, ce qui est bien avec elle, c'est que tu peux lui faire comprendre qu'en fait, elle a tort. Ça, c'est bien aussi.
Alors, loin des clichés sur la banlieue et loin des clichés aussi sur le système éducatif, sans angélisme non plus d'ailleurs, Mathilde Lévesque, elle réitère sa passion pour ce métier, une forme d'attachement à ses élèves à qui elle parle en usant d'un vocabulaire très soutenu. Elle leur parle de Pierre Bourdieu notamment et ne jamais abaisser le niveau et surtout les aider à devenir des citoyens.
Pour moi, être enseignant, ce n'est plus mener des générations, en tout cas plus seulement mener des générations entières au bac.
Je crois vraiment que le bac n'est plus du tout une fin en soi. Ce qui m'intéresse, c'est de former de futurs citoyens qui sont capables de s'interroger et de se doter d'un esprit critique. Parce que ça, ça leur servira toute leur vie pour se protéger, se faire entendre, ne pas subir.
Quel bonheur ce documentaire, film réjouissant, rythmé par des moments émouvants. Il faut entendre les textes de ces élèves. À la gravité de ces mots succèdent aussi des instants plus drôles, grâce à la spontanéité des jeunes, puis à la répartie de cette professeure de français, pas vraiment comme les autres. Jeudi donc je suis, France 2, 23h40, ou en replay, si vous êtes déjà couché.
Merci Eva Rock, merci Axel et Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain, peu avant certainement le cas.
Il est 6h53, Mathieu Noël.
Debout les copains, c'est bientôt terminé, mais comme le disait Victor Hugo, quand il y en a plus, il y en a encore.
Well, it's one for the money.
Avec le débrief de la matinale de Nico Saliegas, un véritable feu d'artifice hier, avec notamment un Laurent Cabrol au sommet de son art. Oui. Mais lequel, me direz-vous? Eh bien, il semblerait que plus encore que la météo, Lolo soit fan de rock'n'roll, d'où cet hommage qu'il a tenu à rendre à Elvis Presley. Restez avec nous, ça vaut le détour. Les ayants droit du King auraient déjà contacté le service juridique d'Europe 1 pour obtenir réparation.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprête à rendre l'antenne et à passer la main à mon fan numéro 1, même si je le charrie gentiment chaque matin. Il m'adore, il attend ce moment impatiemment, puisque chaque matin, quand il aperçoit ma barbe, il s'exclame invariablement.
C'est Kenji là ?
Non, c'est moi ! Mathieu Noël, le type qui dit avec un air narquois, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Saliegas. Et hier, comme on dit, il n'y avait qu'à se pencher pour ramasser. Entre l'outil magique d'Anis Mbida pour, je cite, décomplexer Céline, les défis de prononciation d'Audrey Crespo-Mara.
Gouvernement instrumentalise le. Instrumentalise-t-il.
Bravo.
C'est vous qui vous faites sa gueule. L'hommage vibrant de Laurent Cabrol à Luis Mariano et l'hommage vibrant du même Lolo Cabrol à Elvis Presley. On peut raisonnablement parler de festival ce matin. Tout avait pourtant bien commencé. Nico savait parfaitement appliquer les nouvelles consignes de la direction, bien mettre en valeur les chroniqueurs en soulignant le caractère exceptionnel de leur travail. Bon, sur Abiker, vous y êtes allé un peu fort. Hein. Le type fait une revue de presse, il ne fait pas non plus léviter un piano à queue tout en jonglant avec des quilles en feu.
Eh bien, quand j'arrive au petit matin et que je regarde la presse, je me dis, mais comment David Abiker va-t-il faire sa revue de presse? Je vais la faire avec la bouche.
Oui, tout simplement. Hein. Attention donc aux petites exagérations. Hein. Attention aussi, Nikos, à bien réfléchir quand vous vous lancez dans une phrase à la manière dont vous envisagez de la terminer afin que le début de la phrase jamais. Et la fin soient en cohérence. Hein. Hier, je peux me tromper, mais je crois qu'à un moment, votre cerveau a réfléchi trop vite et votre bouche n'a pas été capable de suivre. Ça a donné cette phrase.
Mais ce que j'entends dans votre analyse, c'est que la diversification, c'est un semblant de garantie quant à l'incertitude de l'avenir.
Alors là, si quelqu'un a compris,
ouais, en même temps, elle est claire.
21, tout de suite. Enfin, c'est une fois de plus indéniablement lui, la star de la matinale d'hier. On connaissait le Laurent Cabrol poète, le Lolo Cabrol météorologue pâtissier, le Lolo Cabrol bruiteur de génie en suivant des volets. Mais il nous restait encore à découvrir le Lolo chanteur. Et là, c'est un nouveau monde, un nouveau champ des possibles quasi infini qui s'ouvre à nous. Tout a commencé avec un merveilleux hommage à Luis Mariano.
Mexico, Mexico.
C'était déjà pas mal, le public était conquis.
Belle affiche, hein.
Ouais.
Ouais. C'était pourtant là que la première partie, le lever de rideau du show Cabrol qui devait accoucher d'un monument, la reprise en yaourt du légendaire tube d'Elvis Presley, Blue Sweat Shoes, enfin en l'occurrence, Boudoudoudou.
Ah. Dance, take my piece. Put my name on the whole piece. On the thing the whole world do. Oh, 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 yeah, do, do, do. Put on do.
C'est ce qu'on appelle une inoubliable matinée. Un unforgettable. Bref, enfin, un chouette moment.
Mais magnifique.
Bravo, Lolo.
Ne vous laissez pas toucher.
Ah bah, et puis, je vais vous dire, il nous l'a refait tout à l'heure.
Oui, fier,
encore mieux.
Laurent Cabrol, ne l'écoutez pas, Mathieu Noël. Bah, moi, je vous signe, je vous produis direct. Bah, mais, on part en tournée tous les deux, en tandem.
Ah, mais ça, c'est une belle idée.
Ça,
c'est
une
affiche qui aurait de la gueule. Quand on écoute Mathieu, on a envie de revenir à la maternelle.
Ou à la matinale. Merci, Eva. Merci, Mathieu. Merci. Bonjour, Céline Dacosta.
Bonjour, Nico.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.